On va parler échec scolaire et décrochage ce matin, et ceci à l'occasion de la 12e journée du refus de l'échec scolaire. C'est organisé par l'AFEV et ses partenaires. On en parle avec vous, Nicolas Moncorgé. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous travaillez à la direction de l'enseignement catholique à Toulouse, où vous êtes chargé notamment de la prévention contre le décrochage scolaire. Donc vous êtes la personne qu'il nous fallait ce matin pour en parler. L'échec scolaire, c'est un peu la terreur de tout parent. Qu'est-ce qui caractérise un enfant dans cette situation, Nicolas Moncorgé?
Alors effectivement, bien souvent, on regarde surtout et davantage les notes de l'enfant. Mais en fait, ce qui va caractériser cet échec, en premier lieu, ça va être la souffrance du jeune, de l'enfant. Souffrance par rapport aux parents, par rapport à ses camarades, du fait d'un décalage qui va se créer. Ça, c'est une première caractéristique. Ensuite, il y a aussi de l'isolement de la part de l'enfant, dû au décalage en fait de résultats. L'enfant qui n'arrive plus à suivre. Puis ensuite, il va y avoir une dévalorisation, un manque d'estime, vous voyez, donc, et ça peut se manifester finalement par de l'agressivité, de la violence. Voilà quels seraient les signes d'un enfant qui commencerait à être en échec.
C'est pas nécessairement un enfant qui ne veut pas aller à l'école ou qui dit ne pas aimer l'école.
Non, pas systématiquement, mais il faut quand même écouter un enfant qui dit... ne pas vouloir aller à l'école, essayer de comprendre aussi, ça c'est important.
Un enfant en échec, c'est un enfant qui travaille mais qui n'a pas de résultat, c'est ça?
Alors pas systématiquement, effectivement, il y a des enfants qui travaillent mais qui n'ont pas de résultat, et là il va falloir essayer de comprendre avec l'enfant pourquoi il n'y arrive pas, il ne réussit pas, selon les critères de réussite scolaire.
Ouais.
D'autres enfants... Ouais. Ils peuvent aussi ne pas travailler.
Vous faites bien de préciser selon les critères de réussite scolaire. Est-ce qu'il y a des enfants qui ne seraient pas faits pour l'école, ou en tout cas pour ce que l'école attend d'eux? Ces fameux enfants qu'on dit pas scolaires. Mon fils, ma fille n'est pas scolaire.
Non, je pense qu'en fait, tout enfant est fait pour apprendre. Ça. Après, c'est la façon dont il sait apprendre et dont il peut apprendre, et ce qu'on peut lui proposer à l'école. Vous voyez, il y a différents types d'intelligence chez un enfant. Chaque enfant est sensible à un type d'intelligence, et ça, il va falloir pouvoir le repérer pour l'aider à apprendre, en fait. Mais toute personne est faite pour apprendre. Après, c'est la façon dont on va lui proposer de rentrer dans l'apprentissage.
Et à quel âge on peut décemment parler de situation d'échec, Nicolas Moncorgé?
Très tôt. On peut très tôt repérer, dès la maternelle, des enfants qui ont du mal à se positionner, en fait, dans ce qu'on leur propose comme élèves, en fait, si vous voulez. Et dès la maternelle, on peut repérer des enfants. Mais ça peut être repéré bien plus tard aussi.
Et dès la maternelle, ça se voit comment? Vous m'étonnez.
Dès la maternelle, vous avez des enfants qui vont pas suivre les consignes qu'on leur donne pour réaliser une activité, qui vont avoir du mal à canaliser leur comportement, avoir des relations avec les autres enfants, par exemple.
Il y en a combien à peu près? Est-ce que on peut l'évaluer par niveau, par tranche d'âge des enfants en échec scolaire comme ceux que vous décrivez?
Non, je ne me risquerais pas à évaluer
non.
Ça.
Ouais.
Non, parce que après, il faut faire attention de ne pas mettre aussi les enfants dans des cages.
Exactement. Parce qu'une fois qu'on les a détectés, on en fait quoi? Quel accompagnement vous proposez? Donc, vous êtes, je le rappelle, à la direction de l'enseignement catholique à Toulouse, en charge donc de la prévention contre le décrochage. Vous les détectez, mais comment vous prévenez et comment vous les accompagnez, ces enfants? J'allais dire ces pauvres enfants.
Les enfants, alors moi je travaille essentiellement avec les enfants du second degré, donc collège et lycée. Voilà, alors moi ce que je propose en fait, c'est, bon, d'abord dans un premier temps pour faire de la prévention, c'est de travailler avec les équipes larges, c'est-à-dire éducatives et pédagogiques, les enseignants, justement dans un premier temps pour essayer de repérer ces jeunes-là. Voilà. Et c'est pas toujours simple quand on a 30 voire 35 élèves de repérer l'enfant, par exemple, qui ne fait pas de bruit, qui peut travailler et pour autant qui est en échec. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, une fois qu'on a repéré, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'établissement justement pour accompagner l'enfant? Est-ce que c'est du soutien? Est-ce que ça va être du tutorat? Est-ce que ça va être des activités périscolaires pour justement un peu le faire sortir de son échec, par exemple? Donc ça serait une deuxième chose. Après, moi, je fais beaucoup de liens entre les établissements, la famille et puis les professionnels extérieurs. La maison des adolescents, je peux renvoyer sur un éducateur, je peux renvoyer sur des psychologues, par exemple.
Est-ce que, pardonnez-moi, je fais cette petite parenthèse, est-ce que tout milieu social est concerné?
Oui, je pense que tout milieu social est concerné. Enfin, moi, je m'attarde pas. Enfin, c'est important, effectivement, l'histoire et l'environnement du jeune, mais je m'attarde pas là-dessus. Ouais. Ce qui est important, c'est, au moment T aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comment on a pu en arriver là, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place.
Voilà. Donc, vous repérez, vous renvoyez vers des structures type maison des adolescents. Quoi d'autre?
Pas systématiquement, si c'est ça ce dont a besoin le jeune, en accord avec la famille, oui, ça peut être ça.
Quel conseil vous donneriez aux parents qui aujourd'hui nous écoutent et qui ont un enfant qui a du mal à l'école? Votre conseil, ça sera ma dernière question.
Alors, pour moi, ce qui est important, c'est il faut toujours partir du jeune, essayer de comprendre pourquoi, en fait, il est en situation d'échec. Alors, les parents, il faut qu'ils puissent dialoguer avec l'enfant, mais qu'ils puissent aussi tenir compte des avis des professionnels, que sont les enseignants, par exemple, que sont les conseillers en orientation, les psychologues, qui peuvent aider aussi les parents à comprendre et à mettre en place des actions qui pourraient faire que l'enfant n'est plus en échec. Ensuite, ce qui est primordial, c'est que en fait, le jeune, il a besoin de confiance. Il faut rétablir une confiance parce que souvent, l'échec fait que le lien entre l'enfant et l'adulte a tendance à pouvoir être rompu, en fait. Vous voyez ?
L'enfant et le parent, vous voulez dire, ou l'enfant et l'enseignant, l'enfant et l'adulte en
l'enfant
général ?
L'enfant et l'enseignant, puis l'enfant et peut-être parfois le parent parce que le parent ne comprend pas. L'enfant veut bien faire et voit qu'il n'arrive pas à répondre à ce que voudraient les parents. Donc, il y a quand même cette confiance-là qui doit, en fait, c'est la confiance qui fera que l'enfant sera capable de réagir. Vous voyez?
Merci beaucoup, Nicolas Moncorgé, pour ces conseils et cette réflexion sur l'échec scolaire. Vous êtes à la direction de l'enseignement catholique à Toulouse. Aujourd'hui, c'est la 12e journée du refus de l'échec scolaire. Une enquête a été réalisée par l'AFEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Elle a été réalisée auprès de 600 collégiens. Les résultats sont à retrouver sur le www.refuséchecscolaire.org. Merci à vous.
Merci, bonne journée.